Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Une passionnante affaire criminelle aujourd'hui. L'affaire Bastouille, qui date de 2010 à Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales. Un vieil homme qui tue son gendre parce qu'il est convaincu que lui-même a tué sa fille. C'est une de ces histoires à laquelle vous n'aurez aucun mal à vous identifier. Et moi, est-ce que j'en serais capable? Je vous laisse libre de la réponse et je vous présente celui avec lequel nous allons débriefer cette histoire tout à l'heure, le ténor du barreau de Perpignan, Étienne Nicolo. Bonjour Étienne.
Bonjour Marc. Bonjour.
On se connaît bien. Voici donc l'affaire Bastouille que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, en Catalogne. Sur le papier, on est au paradis. Une petite ville, ni trop petite ni trop grande, 8000 habitants. De toute façon, si besoin, Perpignan n'est pas loin, 10 kilomètres. Et puis, un vin naturel, doux, sucré, acide, comme il faut. Du soleil, en veux-tu, en voilà. Barcelone, à 2 heures de route. Le paradis. Jusqu'au matin du 10 juillet 2010. Suivez-moi, un peu à l'écart du village. Jusqu'au mas de Jean-Charles Mesmer. Il est 8h du matin, Jean-Charles et sa compagne Karine prennent leur petit déjeuner dehors dans le jardin. Karine se lève, elle débarrasse la table, elle va vers la cuisine. Et là, par la fenêtre de la cuisine, elle voit un homme traverser le jardin. Un homme avec une sorte de capuche sur la tête. Et elle entend son Jean-Charles qui crie.
« Mais, qu'est-ce que tu fais ?»
Et elle entend... L'homme vient de tirer 3 fois sur son Jean-Charles. À bout touchant, c'est une exécution. Karine se précipite sur son téléphone.
Allô ? Allô, la gendarmerie ? Venez vite, on vient de tirer sur mon compagnon.
Elle sort. L'homme a disparu. Elle s'approche de son Jean-Charles, qui est étendu sur la terrasse. Il est mort. Il est mort sur le coup. Les gendarmes arrivent immédiatement. Karine est le seul témoin.
Il avait une sorte de capuche sur la tête. Il a traversé le jardin. Il a tiré 3 fois. Et il est parti.
Et à Rivesaltes, c'est un petit événement. Jean-Charles Mesmer, le mort, 63 ans, était très connu dans le coin. Il est médecin légiste, anesthésiste de métier, et qui plus est franc-maçon, un notable. Un notable que l'on vient d'abattre comme un gangster. Tuer quelqu'un à bout touchant, poum, 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 c'est une méthode de voyou. Et vous pouvez me le décrire, cet homme? Vous l'avez vu, madame? Enfin, non. Non, pas bien. Il avait une sorte de capuche. Pas non plus une cagoule. Une sorte de foulard sur la tête. Mais c'était un homme âgé, je suis sûr. Et son arme? Mais c'était comme un fusil plus court. Genre un fusil à canoncier, vous voyez? Il y a des infos là-dedans. Pourquoi le tueur a-t-il pris la peine de se mettre un foulard sur la tête? Il avait peur qu'on le reconnaisse. Et s'il avait peur qu'on le reconnaisse, c'est qu'il est connu, qu'il appartient au cercle de la victime. Karine dit aussi qu'avant de mourir, Jean-Charles a crié « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Donc il connaît le tueur. Il l'a tutoyé. Et donc c'était un homme âgé. Les gendarmes examinent la scène de crime. Ils furettent de ci, de là, à la recherche d'indices. Ils explorent le jardin. Et ils arrivent devant une haie.
Hé, viens me voir!
Dans la haie, il y a un fusil à la crosse et au canoncier. Il y a un treillis. Il y a un pistolet 22 long rifle, et il y a un gros chiffon qui pourrait correspondre à la description faite par Karine, la compagne de la victime. Dites, madame, qui est-ce qui habite de l'autre côté de cette haie-là? De l'autre côté de cette haie? Mais pardi, c'est Jean Bastouille. C'est l'ex-beau-père de Jean-Charles. L'ex-beau-père. Oui, sa fille était mariée avec Jean-Charles. Elle est décédée. Moi, je suis sa nouvelle compagne. Donc, l'arme et le foulard sont dans la haie de l'ex-beau-père de Jean-Charles Mesmer. Karine a dit que le tueur était un homme âgé. Et Jean Bastouille a 84 ans. Jean Bastouille aurait tué son ex-gendre? Jean Bastouille, le viticulteur que tout le monde connaît? C'est un producteur emblématique du vignoble de Rivesaltes. Pourquoi est-ce qu'il aurait tué son gendre? Jean Bastouille est immédiatement placé en garde à vue à la gendarmerie de Rivesaltes. Un mur, un roc. Monsieur Bastouille, je vous repose la question. Que faisaient ces armes dans votre haie? Dites-le moi. Rien. Il ne répond rien. Pendant les 48 heures que dure sa garde à vue à la gendarmerie, pas un mot. Ce qui déjà attire le soupçon. Un homme qui serait innocent protesterait. Lui s'enferre dans le silence. Mais comme de réels soupçons existent, il est déféré devant le juge d'instruction. Et c'est là qu'il craque, dans le bureau du juge. Il avoue en prononçant une phrase qui va marquer cette affaire.
Oui, j'ai tué le rapace qui a assassiné ma fille.
Et après, il explique comment ça s'est passé. La veille au soir, il est allé à la répétition de l'harmonie de Rivesaltes, où il est trompettiste.
Et après, ma femme n'était pas là, hein. Elle était dans notre résidence secondaire à Barcarès. Mais moi, j'ai dormi à Rivesaltes. Le matin, je me suis levé. J'ai ouvert les volets de mon bureau au premier étage. Et là, je l'ai vu. Et sa copine en train de manger sur la terrasse. Ça a été le déclic. Je suis allé là-bas. Machinalement, j'ai pris le fusil, je suis chasseur. Je suis descendu et voilà quoi. Ça s'est fait.
Il dit qu'il a d'abord tiré deux coups de fusil de chasse et qu'ensuite il l'a achevé d'un coup de revolver, dans la tête.
Et sa compagne, monsieur Bastouille, pourquoi l'avez-vous épargné? Moi, c'est pas elle qui m'intéressait, hein. Moi, c'était le docteur.
Donc il assume, il reconnaît les faits. Mais maintenant, c'est le pourquoi qui est intéressant. Pourquoi a-t-il tué le docteur, comme il dit? Pam, 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 trois coups, 84 ans. Il en faut de la rage, il en faut de la haine. C'est une histoire passionnante parce que, dans un instant, vous allez pouvoir vous mettre à la place de ce vieil homme à l'accent rocailleux de 84 ans, un homme de la terre, travailleur, l'un des premiers à se lancer dans le muscat, 28 hectares de vignes. Quand vous saurez pourquoi il a tué son gendre, vous vous demanderez forcément, et moi, est-ce que j'aurais pu faire la même chose? Et donc voici l'histoire des Bastouilles. Jean Bastouille et sa femme Thérèse ont deux enfants. Ou plutôt avaient deux enfants. Après, ils n'ont eu que du malheur. Leur fils, Michel, est mort d'un AVC à 52 ans. Et leur fille, Anne-Marie, est morte 2 ans après. Et Anne-Marie était la femme du docteur Mesmer. Et c'est dans sa mort que réside l'explication de ce crime. Anne-Marie était infirmière. Et toute jeune diplômée, à l'hôpital de Perpignan, elle est tombée amoureuse du docteur Mesmer, le chef du service anesthésie. Ça n'était pas une amourette, hein. Ils ont vécu 30 ans ensemble. L'histoire était tellement belle que les parents Bastouille leur ont donné leur masse. Et eux se sont installés dans une autre maison qu'ils avaient juste en face. Pour être honnête, Jean le père n'aimait pas trop son gendre. Il le trouvait hautain. Le docteur, comme il dit. Mais bon, les années passent comme ça, dans un côte-à-côte bienveillant. Et puis le couple commence à se déliter. Le docteur a changé de cheval. Il a pris une maîtresse, plus jeune, bien entendu. La fameuse Karine. Anne-Marie le vit très mal. Dépression, arrêt maladie. Elle sait que son mari couche avec cette Karine et elle la connaît puisque Karine est aussi infirmière à l'hôpital. Mieux que ça, c'est la femme du directeur de l'hôpital. Cocu lui aussi. C'est corne-cul en Catalogne, je vous dis. À l'été 2008, Anne-Marie lance un ultimatum à Jean-Charles. « Tu quittes ta maîtresse avant septembre, ou bien je demande le divorce. » Le 15 août, Anne-Marie et Jean-Charles déjeunent chez les parents Bastouille, dans leur résidence secondaire de Barcarès. À la fin du repas, Anne-Marie ne se sent pas très bien. Elle quitte la table, ils rentrent chez eux, et 2 heures plus tard, le téléphone sonne chez les Bastouille. C'est Jean-Charles.
Allô ? Jean ? Anne-Marie est morte ?
Comment ça, elle est morte ? On vient de déjeuner avec elle il y a moins de 3 heures.
Les Bastouille effondrées font la route jusqu'à Rivesaltes. Et quand ils arrivent chez leur fille, ils disent que leur gendre refuse de les laisser entrer dans la chambre où elle repose. Là-dessus arrive le fils d'Anne-Marie, né d'un premier mariage, et lui, on le laisse entrer dans la chambre où se trouve le corps de sa mère, qui vient de mourir. Et qu'est-ce qu'il raconte, le fils, en sortant ? Il raconte que sa mère a une perfusion au bras. Et que Jean-Charles lui a expliqué que sa mère vomissait, qu'elle avait des migraines et qu'il est allé chercher un antivomitif à l'hôpital et qu'il le lui a perfusé. Vous voyez ce qui commence à trotter dans la tête de Jean Bastouille et de sa femme ? Jean-Charles a tué Anne-Marie, sa fille chérie ? D'autant qu'après, la perfusion disparaît. Anne-Marie étant morte à domicile, évidemment, on fait venir un médecin pour constater sa mort. Un ami de Jean-Charles est là à ce moment-là et il dit qu'il ne reste que quelques minutes et qu'il rend son verdict. Rupture d'anévrisme. Bon, ça arrive. Le problème, c'est que ce médecin, c'est un adjoint du docteur Mesmer à l'hôpital. Vous réalisez ce qui est en train de bouillonner dans la tête de Jean Bastouille ? Il l'a tué, le salopard. Il l'a tué. Voilà ce qu'il pense. Et voilà donc pourquoi, à son tour, lui l'a tué. Mais il y a eu une enquête après la mort d'Anne-Marie. Rassurez-moi. Et Jean Bastouille continue de raconter au juge.
C'est lui qui s'est occupé des obsèques. Il nous a écartés, monsieur le juge. Il était le mari, il a tout fait. Et c'est lui qui a décidé qu'Anne-Marie devait être incinérée.
« Elle a été incinérée. Ce qui veut dire concrètement qu'on n'a pas pu et qu'on ne pourra jamais faire des analyses sur son cadavre pour savoir si elle a été empoisonnée. Impossible ! Trop tard ! Les parents ont essayé d'empêcher l'incinération. Il leur a dit « Je suis le mari, c'est moi qui décide. » Et après commence un terrible face-à-face. Je vous rappelle que Jean Bastouille et Jean-Charles Mesmer, veufs, habitent face-à-face. Les Bastouilles, bien sûr, essayent de récupérer leur masse. Jean-Charles leur aurait répondu « J'ai empoisonné la vie de votre fille toute sa vie. Eh ben, j'empoisonnerai la vôtre. » Il est chez lui. Il hérite de sa femme, il est chez lui. Mais là où ça devient insupportable pour Jean Bastouille et sa femme, c'est quand, moins d'un an après la mort d'Anne-Marie, Jean-Charles Mesmer installe Karine chez lui. Le père Bastouille les voit par la fenêtre. Il les entend, il les voit faire la fête, recevoir leurs amis, il les voit roucouler comme deux tourtereaux sous sa fenêtre. Il assiste à leur bonheur 24 heures sur 24. Il paraît même qu'elle porte les vêtements d'Anne-Marie. À chaque fois qu'ils se croisent, ils s'invectivent, ils se menacent. Le meilleur ami de Jean Bastouille voit que ça va dégénérer, il voit le danger. « Enfin Jean, tu peux pas rester là, hein ? Tu te fais mal. Il faut que tu partes. Tu as une autre maison à Cavestani. Va t'installer là-bas. Ne reste pas là. Ça va mal se finir. » Et pendant tout ce temps-là, Jean Bastouille pourrait aller à la gendarmerie dénoncer son gendre puisqu'il croit qu'il a tué sa fille. Non, il rumine. Et le 20 juillet 2010, il le tue. Et ayant avoué et expliqué, il se retrouve en prison. Voilà, je vous l'avais dit, le meurtre perpétré par Jean Bastouille est un de ceux qui vient nous interroger au plus profond de nous-mêmes. Est-ce que je peux le comprendre? Un peu. Est-ce que j'aurais pu faire la même chose? Et maintenant, pour juger Jean Bastouille devant la cour d'assises. Il est indispensable de savoir si oui ou non, Jean-Charles a tué Anne-Marie. Et donc Madame Bastouille, mère, porte plainte pour la mort de sa fille. Pas contre Jean-Charles Mesmer, il est mort. On ne porte pas plainte contre des morts, c'est assez vain. Et donc elle porte plainte contre X, pour être certaine qu'il y aura une enquête. Et il y en a une, évidemment. Elle est confiée à la police judiciaire de Perpignan. Cette enquête révèle plusieurs faits troublants. D'abord, un médecin et une infirmière de l'hôpital de Perpignan racontent la scène suivante, qui se déroule durant l'été 2008. Je me souviens très bien. À l'hôpital, le docteur Mesmer a cherché à plusieurs reprises à se procurer du curare, qui est un produit anesthésique, mais c'est aussi un poison. Et vous lui avez demandé pourquoi ? Oui ? Oui, il m'a dit que c'était pour piquer son chien qui était malade. Il m'a dit, il faut que je le pique et je vais le faire moi-même. L'accusation est très grave. Et donc on vérifie si à l'époque, quelques semaines avant la mort d'Anne-Marie, Jean-Charles Mesmer avait bien un chien malade, au bout de la vie. Et on s'aperçoit qu'il n'y avait plus de chien, qu'il était déjà mort. Et là, chez les Bastouilles, revient l'image de la perfusion. Et si c'était du curare que Mesmer avait mis dedans? Du curare, et pas du primpérant, cet anti-vomitif, comme il l'a dit sur le moment. Et d'ailleurs, est-ce que c'était indiqué de faire une perfusion à Anne-Marie? Une perfusion pour des nausées? Est-ce que ça se fait? La police judiciaire de Perpignan, en charge de la plainte contre X, se rencarde auprès d'un médecin légiste. Une perfusion pour des nausées, vous me dites? Ah non, enfin, dans ce cas-là, on donne plutôt un traitement par voie orale, non? Une perfusion, c'est pas nécessaire, hein? Ça n'a pas de sens. Je vois pas un médecin faire ça. Troublant. Très troublant. Autre chose. Le médecin qui constate la mort d'Anne-Marie conclut à une rupture d'anévrisme. « En quelques minutes, dit un copain du docteur Mesmer qui était là quand le docteur est venu constater la mort et signer le certificat de décès. » Question toute simple de la police judiciaire posée à plusieurs spécialistes. Est-ce qu'un simple examen extérieur du corps suffit à dire que quelqu'un est mort d'une rupture d'anévrisme ?
Ah non ! Non, pas du tout ! On ne peut pas diagnostiquer une rupture d'anévrisme sans réaliser une autopsie ou au moins une IRM. Enfin, seule une IRM permet d'établir sans se tromper que quelqu'un est mort d'une rupture d'anévrisme. Je vous l'assure.
Et pourtant, le médecin qui signe le certificat de décès, dont je rappelle qu'il est un subordonné du docteur Mesmer à l'hôpital, se contente d'un simple examen externe. Vraiment troublant. Et donc on va fouiller du côté du mobile. On sait que le couple battait de l'aile, que lui avait pris une maîtresse et que elle lui avait posé un ultimatum. Comme vous le savez, il y a deux moyens de quitter sa femme. Le divorce et le meurtre. Jean-Charles Mesmer avait-il intérêt à la tuer plutôt qu'à la quitter ? Pour répondre à cette question, c'est assez simple. Il suffit d'aller voir le notaire du couple Mesmer. Et c'est ce que font les enquêteurs de la police judiciaire. Et là, qu'est-ce qu'ils découvrent ? Ils découvrent qu'en vertu du contrat signé par le couple, s'ils avaient divorcé, Anne-Marie, qui était propriétaire du MAS, l'aurait récupéré. Il aurait dû partir. Il aurait dû se trouver un appartement. En revanche, le contrat dit que si elle meurt, en vertu d'une donation au dernier vivant, c'est lui qui récupère le MAS. Vraiment très troublant tout ça, mis bout à bout. La perfusion inutile, le diagnostic bâclé du médecin qui constate la mort d'Anne-Marie, et maintenant l'intérêt matériel que Jean-Charles Mesmer avait à tuer sa femme. Tout ça est extrêmement troublant. Mais sur le plan judiciaire, c'est sans effet. Le docteur Mesmer est mort, on ne peut pas l'accuser d'un crime. On ne juge pas les morts. Et donc le juge d'instruction prononce un non-lieu. En tuant son gendre, Jean Bastouille a commis une erreur terrible. Alors qu'il lui suffisait de porter plainte, il y aurait eu une enquête, et à l'issue, peut-être aurait-il été renvoyé devant la cour d'assises, et peut-être qu'il aurait été condamné. Peut-être. Et au lieu de ça, c'est Jean Bastouille qui se retrouve devant la cour d'assises pour le meurtre de son gendre. Le procès de Jean Bastouille s'ouvre en décembre 2014, 4 ans après le meurtre, devant la cour d'assises de Perpignan. Entre-temps, en juin 2011, Jean Bastouille a été remis en liberté. Il comparaît donc libre. Il a 89 ans. Dans la salle, il ne manque pas de soutien. La plupart de ses amis de l'orchestre de Rivesaltes sont là. Et dans le camp d'en face, sur le banc des parties civiles, se trouve le fils de Jean-Charles Mesmer, Olivier, et Karine, sa dernière compagne. Sur les faits eux-mêmes, ce procès est sans enjeu. Jean Bastouille reconnaît qu'il a tué son gendre. Et donc tout le procès qui va durer 5 jours va porter sur les circonstances de la mort d'Anne-Marie. Et là, on marche sur un fil, vous vous en rendez compte. Parce qu'il ne s'agit pas de juger la victime, ça serait indécent, mais juste d'éclairer le geste du vieux Bastouille à la recherche. C'est toute la stratégie de son avocat, le ténor du barreau de Perpignan, maître Nicolo, de circonstances atténuantes. En face, vous vous en doutez, les avocats de la famille Mesmer sont aux aguets. Ils ne laisseront rien passer. Ça n'est pas le procès de Mesmer. Pas question de salir la mémoire du mort. témoignages vont concrétiser ce face-à-face. D'abord celui de l'enquêteur de personnalité qui vient dire à la barre que Jean-Charles Mesmer n'était pas quelqu'un de recommandable, qu'il était strictement intéressé par l'argent et par l'argent uniquement.
Monsieur le Président, je m'inscris en faux. Enfin, ces propos sont inadmissibles dans le cadre de cette cour d'assises. Nous rappelons qu'il n'est pas question d'émettre ici quelque avis que ce soit sur la victime, mais de juger son meurtrier.
Il a raison. C'est peut-être frustrant, c'est rageant, c'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. On fait aussi venir à la barre le capitaine de la police judiciaire qui a enquêté sur la mort d'Anne-Marie.
Selon vous, capitaine, Jean-Charles Mesmer est-il coupable d'avoir tué Anne-Marie ?
Oui. Oui, je pense qu'il l'est.
À ce moment-là, l'avocat de Jean Bastouille enfonce le clou.
Eh bien, je suis convaincu, moi aussi, que Jean-Charles Mesmer a tué Anne-Marie Bastouille. Si elle divorçait, il perdait tout. Si elle mourait, il avait tout.
Tout ça est très limite. On ne juge pas Jean-Charles Mesmer, on juge celui qui l'a tué. Et d'ailleurs, le président doit faire une mise au point. Il rappelle qu'en tuant son gendre, Jean Bastouille a empêché la justice de résoudre le mystère de la mort de sa fille. À la fin, l'avocat général reconnaît dans son réquisitoire qu'il y a, dans la mort d'Anne-Marie, des éléments troublants. Il dit aussi que l'accusé est un homme bien, c'est assez rare, dans la bouche d'un avocat général.
En conséquence, eh bien je vous demande de condamner M. Bastouille pour assassinat et de prononcer à son encontre une peine de 5 à 10 années d'emprisonnement.
Dans la foulée, Maître Nicolo plaide l'acquittement. C'est jouable. Devant un jury populaire, c'est jouable. Les gens ont pu aisément, comme vous, se mettre à la place de l'accusé. Les jurés délibèrent pendant 1h30, c'est assez court, et le verdict tombe. Jean Bastouille est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Dans le box, le vieil homme accuse le coup. Le micro d'Europe 1 est là.
Oui, et dès le prononcé du verdict, Jean Bastouille encaisse un peu hagard avant de s'effondrer dans son box.
Oh, c'est un peu fort. Je comprends pas. Enfin, bref, ils ont décidé comme ça.
Monsieur Bastouille, calmez-vous.
Je suis pas prêt.
Donnez-moi une arme, je veux en finir. Le vieil homme va le crier à plusieurs reprises avant de tenter de s'emparer même du pistolet d'un policier et d'être conduit à l'extérieur de la salle d'audience. Pour Nicole, sa petite fille, il n'a bénéficié d'aucune circonstance atténuante.
On ne pouvait pas attendre plus dure peine. Le décès d'Anne-Marie n'a pas été pris en compte. Je ne m'attendais pas à une condamnation à mort. C'est ça que ça veut dire. Quand on a 89 ans et qu'on condamne un homme à qui on a tué sa fille à 10 ans de prison, c'est une condamnation à mort.
Sur le banc des parties civiles, le verdict est un soulagement. Karine Romano, la dernière épouse du docteur Mesmer, a très mal vécu les accusations de meurtre contre son mari durant le procès.
On a sali Jean-Charles, on m'a sali. Par ricochet, on a sali mes enfants. Je suis juste soulagée que M. Bastouille soit condamné.
Dès l'énoncé du verdict, Maître Nicolo annonce que son client va faire appel. Et à partir de ce moment-là, dans l'attente du procès en appel, Maître Nicolo n'a qu'une idée. Faire sortir son vieux client de prison. Parce que figurez-vous que Jean Bastouille, 89 ans, est devenu par sa condamnation le plus vieux prisonnier de France. Et il y parvient au bout de quelques semaines. Il est vieux, il est malade. Et Jean Bastouille est à nouveau libre dans l'attente de son procès en appel. Et après, ma foi, c'est la justice, encombrée, débordée. Normalement, le procès devant la cour d'assises d'appel devrait se tenir environ un an après le premier procès. Mais en 2015, rien. En 2016, rien non plus. Alors ça sera sans doute en 2017? Eh bien non, ça ne sera jamais. Car le 11 janvier 2017, Jean Bastouille, 92 ans, meurt. Il n'y aura jamais de procès en appel. Et comme l'appel avait effacé la première condamnation, il meurt innocent. Jean Bastouille n'est pas l'assassin de Jean-Charles Mesmer, qui lui-même n'est pas l'assassin de sa femme Anne-Marie. Cette histoire se termine en jus de boudin, frustrante jusqu'au bout. Et cette histoire, nous allons la débriefer maintenant avec Maître Étienne Nicolau, qui était donc dans ce dossier l'avocat de l'accusé, Jean Bastouille, et qui est là avec moi au téléphone. Frustrante, on est d'accord, Étienne?
Oui, parce que jamais il n'y aura de point final juridique, judiciaire, à cette affaire, à ces deux affaires. Parce que je suis convaincu, comme l'était d'ailleurs Jean Bastouille, et comme l'était la plupart des gens qui ont assisté au procès, je suis convaincu que le docteur Mesmer avait tué Anne-Marie, la fille de Jean Bastouille. On en est tous convaincus. Je pense d'ailleurs que la police judiciaire l'a clairement prouvé, mais bien sûr, ça n'a qu'une incidence, et ça n'en a pas eu, sur le verdict de Perpignan.
Alors c'est quand même fou quand même qu'il ait fallu attendre plus de 3 ans pour finalement ne jamais organiser ce procès en appel. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est parce qu'il était libre, on s'est dit, il peut attendre?
Alors, ce qui est vrai, c'est que les cours d'assises, et ça n'est pas seulement dans la région de Perpignan, les cours d'assises en France sont encombrées. Et donc, pour faire passer les affaires en appel, on privilégie les gens qui sont détenus plutôt que ceux qui sont en liberté, et Jean Bastouille était en liberté. Donc, on a fait passer d'autres affaires avant la sienne.
Rassurez-moi, ça n'est pas une stratégie de votre part, le faire libérer,
pour que le procès
n'ait jamais lieu. Jouer la mort.
Non, pas du tout. En réalité, on attendait donc ce passage devant la cour d'appel, qui n'est jamais intervenu, tout simplement à cause de l'encombrement des cours d'assises dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude, dans l'Hérault, et c'était dans l'Aude qu'il devait être jugé.
À Carcassonne.
À Carcassonne.
Dans quel état était cet homme qui attendait son procès en appel? Est-ce que c'était le centre, le cœur de sa vie de vieillard? Ou bien est-ce qu'il avait posé ça de côté? Est-ce qu'il continuait à aller à la fanfare, à jouer de la trompette?
Non, il espérait donc que ce procès intervienne en appel, qu'il puisse à nouveau expliquer pourquoi il avait commis cet acte terrible qui est celui de tuer un homme. Et donc, Jean Bastouille était, il faut le rappeler, était un être exceptionnel. Un être exceptionnel parce que, sur le plan familial, il était marié depuis 60 ans avec sa femme. Il avait travaillé toute sa vie. Petit à petit, il avait créé donc une exploitation agricole, il avait pu acheter des biens, les construire, il avait une activité sociale importante, il était dans le club de Sardane, c'était un homme qui était aimé dans son village, et c'était le grand-père idéal, ou le père idéal selon l'âge que l'on a. Moi je le considérais comme quelqu'un d'exceptionnel, et il était exceptionnel.
Alors, vous avez plaidé, lors du premier procès, l'acquittement. Pourquoi l'acquittement? Je l'ai dit, devant un jury d'assises, c'est jouable.
Voilà,
mais moi, c'est un homme qui a tué un autre homme.
Voilà, juridiquement, c'était un acquittement impossible. Mais tous les gens que j'ai rencontrés pendant les 3 ans qui ont suivi le meurtre de Jean-Charles Mesmer et la comparution, donc, de Bastouille devant la cour d'assises, tous les gens que j'ai rencontrés me disaient « Mais on ne peut pas le condamner !» Et donc j'étais convaincu qu'un jury populaire pourrait, en passant sur les lois et sur leur application stricte, acquitter Jean Bastouille. Je me suis trompé. Je me suis trompé parce que les magistrats étaient d'un avis, bien entendu, tout à fait opposé.
C'est-à-dire, vous êtes en train de dire, Maître Nicolau, que au moment du délibéré, les magistrats ont pu influencer le jury?
Je suis convaincu. pendant tout le procès, alors qu'on établissait petit à petit, par les témoignages du personnel d'hôpital, par le témoignage du notaire, par le témoignage même du vétérinaire qui est venu dire qu'il n'avait pas de chien à cette époque-là, alors qu'il cherchait un poison, on établissait que le docteur Mesmer avait tué, et le président rappelait sans cesse que ça n'était pas le procès, que ça n'avait aucun intérêt. Ça avait un intérêt. C'était le mobile du crime commis par Jean Bassouille. Ça restait un crime, certes, mais avec un mobile qui était, pour moi, un mobile que tout le monde pouvait comprendre.
Alors, vous plaidez l'acquittement, c'est aussi parce que vous considérez qu'il n'y a pas de risque de récidive.
C'est sûr que c'était un crime qui ne correspondait qu'à un fait précis. Jean Bastouille n'aurait jamais tué qui que ce soit, sauf l'assassin de sa fille. Jean Bastouille a vu évoluer ses sentiments. D'abord, il est surpris de la mort subite de sa fille, des circonstances dans lesquelles elle est intervenue, de ce médecin qui vient sans pratiquement voir le corps et qui va délivrer un certificat de décès. Et puis, il voit arriver en face de lui une maîtresse. Une maîtresse qui utilise les vêtements, la voiture,
c'est
le téléphone
ça.
De sa
c'est,
fille.
C'est confirmé ça qu'elle a utilisé les vêtements d'un mari ?
Absolument. Un témoin est venu le dire, même si à ce moment-là, le président a dit « mais ça n'a aucune importance ». Il a vu parfois sa fille, alors qu'elle était morte. Il a eu l'impression de voir sa fille. Quand il a téléphoné un jour au téléphone au numéro de sa fille, il a eu la maîtresse de Jean-Charles Mesmer.
Vous voulez dire le portable ?
Le portable, oui.
Elle
utilisait le portable, le véhicule et les vêtements. Bon, donc si vous voulez, ça le choque, ça. Et puis, il apprend, et ça, il l'apprend petit à petit, que le docteur Mesmer cherchait un poison à l'hôpital pour, disait-il, lui, empoisonner son chien. Alors qu'à cette époque-là, ils n'ont plus de chien depuis déjà un an. Donc, si vous voulez, tout ça, il est convaincu, lui, que Jean-Charles Mesmer a tué sa fille. D'autant plus qu'il est médecin anesthésiste réanimateur. Quand Anne-Marie meurt, il ne fait aucun acte, aucune tentative de réanimation sur le corps d'Anne-Marie.
Genre massage cardiaque, bouche à bouche, etc.
Rien, rien. Et ça a été vérifié par des médecins qui ont dit qu'effectivement, sur le corps, ensuite, il n'y avait rien du tout. Donc, pas de traces de tentative de réanimation. L'hôpital de Perpignan se trouve à 3 minutes en voiture. Il n'amène pas Anne-Marie à l'hôpital. Il ne fait rien. Et par contre, il empêche les parents de rentrer dans la chambre. Il empêche les amis de voir le corps. Le corps est placé dans un cercueil 6 ou 7 heures après la mort, alors qu'on doit attendre au moins 24 heures. Il est incinéré. C'est trop pour Jean Bastouille, et c'est trop d'ailleurs pour les enquêteurs de la police judiciaire. Le président, quand il pose la question à l'enquêteur en disant « Est-ce que vous pensez que Jean-Charles Mesmer a tué sa femme ?» Il pense que l'enquêteur va dire « C'est possible, il y a des doutes ». L'enquêteur lui dit « Moi, j'en suis sûr ».
Alors, maître, quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que les Bastouilles ne portent pas plainte contre leur gendre dès le lendemain de la mort d'Anne-Marie ? Vous êtes leur avocat déjà à l'époque où vous n'êtes, vous, que l'avocat du procès ?
Je ne suis l'avocat de Jean Bastouille qu'à partir du moment où il a été interpellé juste après le meurtre de Jean-Charles Mesmer. Donc, je n'ai pas pu le conseiller avant. Il ne m'a jamais parlé avant des doutes qu'il assaillait concernant la mort de sa fille. Mais vous avez l'explication, vous l'avez donnée. Vous avez expliqué que Jean-Charles Mesmer est un notable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui gagne beaucoup d'argent, qui s'affiche avec le procureur de la République de l'époque, de Perpignan, il le reçoit chez lui, il a de l'entre-gens, il connaît beaucoup de monde, et Jean Bastouille, c'est l'homme simple, c'est l'opposé, c'est le viticulteur, l'agriculteur de base, gentil. Et donc, je suis persuadé, c'est ce qu'il m'a toujours dit, il était convaincu, lui, que déposer plainte ne servirait à rien, que jamais la justice ne condamnerait cet homme avec des soupçons, le corps n'était plus là, la perfusion avait disparu. Alors, on sait qu'il cherchait de la sélocurine, c'est-à-dire du curare, et que c'était pendant l'été. Mais est-ce que les gens auraient parlé à ce moment-là, une fois que Jean-Charles Mesmer était parti, avait été tué, les langues se sont déliées.
Mais enfin, j'entends ce que vous dites, Maître Nicolo, mais enfin, Bastouille est un type qui a du caractère. J'ai quand même du mal à imaginer qu'il ait baissé les bras si vite. Ça n'était pas compliqué de porter plainte, même si on envisageait que peut-être ça n'irait pas plus loin. Au moins, ça lui aurait fait peur. Et il ne le fait pas. On ne comprend pas ce moment-là.
Les doutes se sont accumulés progressivement. C'est-à-dire qu'il était impossible de déposer plainte juste après le décès d'Anne-Marie, parce qu'on n'aurait eu aucun élément. Les doutes sont devenus beaucoup plus importants quand Jean Bastouille s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une maîtresse. S'est rendu compte que...
Il n'était pas au courant que le couple se délitait, donc. Il jouait le cinéma devant les autres.
Voilà. Jean Bastouille ne savait absolument pas que sa fille, Jean-Charles Mesmer, avait des problèmes conjugaux. Lui, il l'a appris plus tard. Même quand il a vu arriver cette maîtresse, il ne savait pas, lui, si cette maîtresse, Jean-Charles Mesmer, son gendre, l'avait avant la mort. On le sait aujourd'hui que c'était avant la mort. Donc, tout ça, ça s'est immiscé. Ça a été comme le poison qu'elle a reçu, Anne-Marie. Lui, il a reçu ce poison, Jean Bastouille, petit à petit. On lui a dit petit à petit que l'autre cherchait de... un poison pour tuer un chien, on lui a expliqué, et les langues se sont déliées, et alors peut-être aurait-il déposé plainte, mais face à cette opposition qu'il y avait entre lui et puis cet homme qui se trouvait en face avec sa maîtresse, un matin, les voyant heureux, en train de prendre le petit déjeuner, il a décidé de le tuer.
Il y a une morale à cette histoire, finalement, Maître Nicolo, c'est que il ne faut jamais faire justice soi-même, parce qu'au final, il n'y a pas de justice si on fait justice soi-même. On a un exemple parfait, là. Il aurait porté plainte. Peut-être Jean-Charles Mesmer eût-il été condamné.
Je ne sais rien. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Moi, j'ai pris, comme vous le disiez, une histoire, un dossier, à un moment où l'irréparable avait été commis. Et la question que je me posais moi-même, c'était qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si j'avais eu la certitude que quelqu'un avait tué ma fille? Est-ce que j'aurais, moi aussi, tenté de tuer cette personne? Je n'en sais rien. Il est rare, aujourd'hui, qu'un homme tue quelqu'un pour venger un enfant. C'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que la plupart des gens comprenaient. Même si, juridiquement, c'est totalement inadmissible. Mais c'est compréhensible, à mon avis, et moi, je le comprenais, en tout cas.
Je vous remercie beaucoup, Maître Nicolo, d'avoir débriefé pour nous cette histoire que je trouve absolument exceptionnelle, unique, dans le calendrier judiciaire du début de ce 21e siècle.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.